Accent d'Europe, Catherine Roland.
This was the year I would finish a book. I was going to live a bohemian life in Berlin.
Bonjour à tous, bienvenue dans Accent. C'est le nouveau coup d'éclat des associations de Norvège qui essayent ainsi d'attirer l'attention avec des clips provocateurs. L'an dernier, des Africains chantaient pour collecter du bois, pour aider les Norvégiens à se chauffer l'hiver. Cette fois, un blog tenu par une jeune fiancée de 12 ans a fait le tour du monde. La jeune fille y racontait avec force détail les futures festivités avant son union avec un homme de 40 ans, son aîné. Sauf que tout était faux, le but étant évidemment de sensibiliser l'opinion publique au mariage forcé des petites filles. Pauline Curtet.
À son lancement début octobre, le blog était très réaliste. On y voyait des photos de Théa, blonde, souriante, avec son futur mari, un peu bedonnant. Chaque jour, elle postait des photos des préparations du mariage. Puis une vidéo est parue, celle révélant le canular. Le jour du mariage, Théa, en robe de mariée, refuse d'épouser son mari devant l'autel. Depuis que la fausse nouvelle a été dévoilée, le blog, qui avait reçu plus de 500 000 visites, s'est transformé en site dénonçant le mariage des enfants. À l'initiative de cette campagne, Plan Norway, une association protégeant le droit des enfants, branche de l'ONG Plan International, se satisfait de son succès. Un représentant de l'association l'a reconnu, le but était bien de choquer les gens, pour attirer leur attention sur les 39 000 jeunes filles mariées de force dans le monde, chaque jour. Pour elle, écrit-il, ce qui devrait être un événement inoubliable devient en fait le pire jour de leur vie. Plan Norway propose donc sur son site de parrainer des petites filles pour éviter qu'un tel drame ne leur arrive. Mais cette campagne a aussi révélé une vérité bien inconfortable, relevée par plusieurs médias après l'annonce du canular. Théa était une jeune fille occidentale, blonde aux yeux bleus et chrétienne. Fallait-il donc passer par l'invention de son histoire pour sensibiliser les gens, et ce, alors que d'autres cas de mariage forcé, véridiques, ont lieu tous les jours ? La réponse semble bien être que oui.
L'agression russe en Ukraine, l'annexion de la Crimée notamment, a ravivé de très mauvais souvenirs chez les anciens satellites de l'Union soviétique. Les Pays-Baltes craignent carrément d'être la prochaine cible de Moscou en raison de la présence d'une forte minorité russophone. Les gouvernements baltes ont donc demandé à l'OTAN une plus grande protection de leur région. Mais les pouvoirs ne sont pas les seuls à se mobiliser, les civils également. En Lituanie, ainsi, un groupe paramilitaire renaît de ses cendres. Il compte aujourd'hui environ 7000 membres, soit quasiment autant que l'armée régulière lituanienne. C'est le reportage de Marielle Vituro.
Gauche, gauche, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans le musée militaire en plein air, entre les vieux tanks, une vingtaine de personnes s'entraînent à marcher en cadence sous la houlette d'un officier de réserve. Certains sont en uniforme, leur patronyme cousu sur la poitrine, un béret vert sur la tête. Les autres, en civil. Un jeune homme a même encore ses écouteurs autour du cou. Tous font partie de l'Union des Tireurs, une organisation paramilitaire qui connaît un engouement sans précédent. Sur Vilnius, la capitale lituanienne et sa région, près de 500 personnes ont regagné ses rangs depuis le début de l'année. Kostas Ivanauskas enseigne la médecine à l'université.
Les événements de Maïdan à Kiev en Ukraine, quand des manifestants pacifiques ont été tués, ont agi comme un révélateur. C'est ce qui m'a incité à rejoindre cette union des tireurs. Nous aussi avons connu la même chose en janvier 91. Des civils, protestant pacifiquement, ont aussi été tués par les soviétiques. Pour moi, le meilleur moyen de défendre son pays est de faire partie de cette organisation publique paramilitaire. Elle permet de rassembler les gens, de leur offrir une formation et de les préparer pour ne pas devenir de la chair à canon.
Au programme, cours du soir et exercices pratiques. Revue de détail avec Vilma, une jeune pharmacienne, qui s'est engagée le 5 juillet, la veille de la fête nationale.
Le week-end dernier, lors des exercices, nous avons surtout appris à manier les armes. Nous avons appris à tirer, nous concentrer et viser juste. Et le soir, pendant une heure, nous avons appris à nous déplacer ensemble, en cadence, à défiler.
Thomas Grabauskas dirige la 10e unité de l'Union des tireurs. 500 personnes ont rejoint son unité depuis le début de l'année. Il a désormais sous ses ordres environ 1000 personnes.
Nous assurons une formation militaire avec des exercices de tir. Si, comme en Ukraine, des petits hommes verts, ces hommes de main de Poutine, venaient ici, nous aurions certainement un rôle à jouer pour les contrer. Mais notre aide prend diverses formes. Nous avons lancé un appel aux dons pour soutenir l'armée ukrainienne. En l'espace de 24 heures, nous avons récolté près de 1500 euros. On peut imaginer que les membres de l'Union pourraient soutenir l'armée lituanienne de la même façon en cas de besoin.
Créer du lien social, encourager toutes sortes d'actions citoyennes, c'est le but de l'Union des tireurs qui se veut apolitique depuis sa création en 1919. Interdite quand l'Union soviétique a occupé la Lituanie en 1940, elle s'est reformée au moment de l'indépendance et a assuré notamment la protection des députés élus démocratiquement et retranchés dans le Parlement lituanien lors des attaques de janvier 1991. Le patriotisme connaît un véritable regain en Lituanie. La crise en Ukraine en est en partie responsable. Kęstutis Girnius, professeur de sciences politiques.
Il y a 10 ans, l'Union des tireurs, c'était tout juste un groupe de scouts adultes. Ce phénomène patriotique est tout à fait nouveau. Il faudrait que le pouvoir l'utilise à bon escient. Le patriotisme, ce n'est pas uniquement un engagement pour aller combattre, c'est aussi s'occuper de la vie publique du pays, de ses problèmes politiques.
Longtemps en désuétude, la renaissance de l'Union des tireurs, rejointe par une nouvelle élite intellectuelle et politique plutôt libérale, va la forcer à se réinventer, à trouver de nouveaux modes d'action. Pour Alexandra Smatonis, auteur d'un blog suivi sur la défense, lutter contre les menaces contemporaines, comme les cyberattaques, pourrait faire partie de ses attributions.
Tous les membres ont une vie civile, un métier. Parmi eux, on compte beaucoup de jeunes gens qui savent réagir de manière moderne et inventive face aux dangers. Par exemple, il y a 3 frères qui ont récemment adhéré au mouvement. Ils sont à la tête d'une grande entreprise de haute technologie. On peut imaginer comment cette société pourrait être intéressante en cas de crise pour assurer des communications fiables, pour que les gens puissent être informés. Je pense que c'est une opportunité pour accroître les moyens de défense de l'État avec des moyens non militaires.
La crise en Ukraine, l'engagement massif de volontaires prêts à défendre leur patrie, tout cela a réveillé les dirigeants lituaniens. Une force de réaction rapide au sein de l'armée vient d'être créée et pour la première fois en 2015, le budget de la défense augmentera d'un tiers.
Et on prend la direction de l'Espagne. On retrouve à Madrid François Musso. Bonjour François.
Bonjour.
Alors El País, le quotidien espagnol de référence, se renouvelle et continue son expansion mondiale. Après avoir lancé une édition espagnole aux États-Unis, une édition portugaise au Brésil, le journal vient de lancer une édition, cette fois en catalan, elpais.cat. Alors François, est-ce la version espagnole, juste traduite, ou un journal vraiment catalan?
En fait, c'est un peu des deux, parce que cela reste en partie un journal espagnol, car l'initiative vient bien de Madrid, à savoir de la direction du groupe Prisa, le grand groupe de communication dont El País et El Fleuron. C'est même une initiative personnelle de Juan Luis Cebrián, le flamboyant patron d'El País depuis 30 ans. Donc c'est bien une volonté de parachutage depuis la capitale vers l'autre grande ville espagnole, Barcelone. Mais en même temps, ce nouveau journal est intégralement écrit en catalan, intégralement sur le net, avec des journalistes catalans. D'ailleurs, le slogan, c'est elpais.cat, journal catalan, 100% en catalan, global et digital.
Mais pourquoi avoir lancé ce journal aujourd'hui ?
Il y a une série de facteurs. C'est en fait une conjonction d'opportunités et de contraintes. Comme ailleurs, eh bien, la presse écrite se porte mal en Espagne. L'édition web, c'est l'avenir, voire même le présent. Alors il faut parier à fond dans ce sens. C'est aussi une opportunité historique. La Catalogne est une région riche avec un très fort sentiment de nation. On a pu le voir d'ailleurs le 11 septembre dernier lors de la Diada, le jour national, avec 1,5 million de Barcelonais dans les rues pour réclamer un référendum d'autodétermination. Depuis environ 3 ans, le gouvernement régional parle de se divorcer de Madrid comme l'Écosse a tenté de le faire vis-à-vis de Londres en septembre. Et puis, il faut aussi parler de la langue. Le catalan est parlé par environ 90% des 7,5 millions d'habitants. On la parle de plus en plus, obligatoire dans l'administration et l'école, et on lit aussi de plus en plus le catalan.
Alors François, il existe déjà d'autres journaux en catalan. N'est-ce pas une aventure risquée pour El País ?
Oui, vous avez raison, dans les kiosques ou sur le web, on trouve déjà La Vanguardia, un très bon journal, El Periódico, Avui, Punt et bien d'autres, et la plupart ont une double édition en espagnol et en catalan. On peut donc se demander s'il n'y a pas un risque de saturation, d'autant qu'El País version papier a depuis déjà 32 ans un supplément catalan tous les jours, certes écrit en espagnol. En réalité, il y a là un calcul d'expansion. Le patron de Prisa est convaincu que l'avenir appartient aux journaux digitaux et surtout qu'il faut occuper les bons marchés, c'est-à-dire les endroits où il y a des flux financiers importants, de l'activité économique et aussi des lectorats dynamiques, exigeants, d'où les récents lancements d'El País Digital au Brésil en portugais, aux États-Unis pour tous les hispanophones et donc aujourd'hui en Catalogne. Dans ce cas-ci, eh bien, l'avantage est que El País compte déjà sur des journalistes expérimentés en poste à Barcelone.
François Musso, notre correspondant à Madrid, qu'on retrouvera prochainement dans Accent. Autre success story qui a de l'avenir, c'est en Pologne. C'est une jeune femme qui a reçu cette année le prix des entrepreneurs. Elle a eu la très bonne idée de créer un petit avion très léger qui peut rejoindre l'Allemagne en 1 heure et Londres en 2h30. Le Flaris Lyre 1 sera commercialisé en 2015. Maya Szymanowska nous dresse son portrait.
Cette belle brune est partie voilà quelques années à la conquête du ciel avec un projet novateur, celui d'un petit avion civil doté d'un moteur à réaction, facile à piloter, léger et sécurisé. Un rêve d'Icar qu'elle partage avec son ingénieur de mari. Une idée qui leur est venue sur la route de Berlin. Coincés dans les embouteillages, ils se sont mis à imaginer comment ils pourraient relier leur Jeleniagura natale à la capitale allemande en moins 1 heure. C'est ainsi que Flaris Lyre 1 est né. Sylvia, germaniste de formation, auteure de manuels d'apprentissage d'allemand, a réussi sa reconversion en aéronautique avec brio. Elle est à la tête de Metalmaster, une entreprise produisant des composants métalliques pour avions, et depuis 2000, elle co-dirige Flaris. Sylvia Wajinska parle de Flaris comme de son propre bébé, un bébé qui a déjà coûté 13 millions d'euros, a généré aussi le dépôt de 8 nouveaux brevets. Ce 5 places, avec son moteur à réaction qui pèse à peine 700 kg à vide, peut franchir une distance de 2500 km à 700 km/h, ce qui permet de traverser la Pologne en à peine une demi-heure et de se rendre à Londres en 2h30 et pour 400 euros. Car un autre avantage de Flaris est aussi d'être économe en carburant. Sa conceptrice s'occupe actuellement de la promotion du projet et du carnet de précommande. L'avion devrait être commercialisé en 2015. Sylvia Wajinska, en tant qu'ambassadrice des femmes entrepreneuses et grâce à sa success story, compte donner l'exemple dans un pays où ce sont les femmes qui ouvrent le plus de petites entreprises, mais qui sont rarement à la tête de si grandes sociétés et dans le secteur comme l'aviation et l'ingénierie, réputés très masculins.
Trois kilomètres de tuyaux sous les canaux pour acheminer de la bière jusqu'au centre-ville. Mais que ne ferait-on pour des clients assoiffés ? Une célèbre brasserie de Bruges en a obtenu l'autorisation. Le but est d'éviter les embouteillages. Barbara Schall nous appelle de Belgique.
Bruges, la touristique attire pour son romantisme, mais aussi pour ses chocolats et ses bières. Chaque année, plus de 100 000 visiteurs viennent découvrir la brasserie de Halvemann, la demi-lune, sur une petite place du centre historique. Ils viennent y déguster la Brugshout, le fou de Bruges, une bière blonde emblématique de la ville. Mais l'établissement est victime de son succès. En 2010, la brasserie a dû délocaliser son site d'embouteillage un peu plus loin, dans une zone industrielle à l'extérieur du centre historique. Là-bas, la bière est filtrée, entreposée et mise en tonneaux ou en bouteilles. Un déménagement non sans conséquence. Chaque année, quelques 500 camions-citernes font des allées et venues pour relier les deux sites. Une sacrée pagaille pour la toute petite petite ville aux briques roses et aux façades gothiques, pas franchement pensée pour ça. Des rues beaucoup trop étroites, la circulation abîme, les vieux pavés, mais âgée de 5 siècles au moins, la vénérable brasserie est la toute dernière dans les murs historiques de la ville, alors pas question de déménager. La solution, ce pipeline de 3 km de long, l'installation doit débuter l'an prochain avec une technique empruntée au secteur pétrolier. Le tuyau passera sous plusieurs canaux de la ville. 4 millions de litres de bière devraient transiter chaque année par cette canalisation, soit 6 000 litres par heure. La technique est déjà utilisée ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, une brasserie de l'Ohio utilise déjà cette méthode pour approvisionner les pubs voisins. Mais en Belgique, ce sera bien une première.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous proposez aujourd'hui un petit détour par l'Islande.
Eh oui, Ólafur Arnalds, les violonistes de formation, rompu au chant classique, longtemps associé au groupe MUM, et elle a construit une jolie discographie dans le registre d'un folk délicat, en prise avec les traditions musicales de son pays. Son quatrième album, Palm, vient tout juste de paraître et c'est une réussite majeure, avec notamment un travail sur les orchestrations d'une richesse inédite pour Ólafur Arnalds. Ses chansons se sont étoffées, sans pour autant que l'Islandaise renonce à la fragilité et la douceur qui fait son charme. La preuve par l'exemple avec la belle Defining Gender.
Délicat Defining Gender, un extrait du quatrième album de Ólafur Arnalds. Merci de nous avoir suivis sur Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants. Un peu de patience, le journal. For the first time.